Mais nous allons simplement lire dans Josué, nous allons simplement lire Josué 10, le verset 14, qui se trouve être en même temps le titre du message. La première partie, c'est-tu le verset 14? En fait, c'est pas 14, c'est 13. Il nous est dit « Et le soleil se tint immobile. » Alors, c'est ça qui est le titre du message ce matin. Alors, on est dans Josué, on continue notre périple dans la progression dans Canaan, la terre promise. Vous êtes-vous déjà demandé cette question? Tôt ou tard, vous le ferez probablement. Pourquoi le fait d'être un chrétien doit être si difficile? Si vous ne vous êtes pas demandé cette question, ce pourrait être pour une ou deux raisons. Soit que vous n'êtes pas un chrétien et que vous vivez encore une coexistence paisible avec le péché, le diable et le monde. L'autre possibilité est que vous êtes un chrétien et un très jeune chrétien et Dieu vous traite très gentiment. Et il fait souvent cela avec les jeunes agneaux, les nouveaux convertis. Ainsi, réjouissez-vous pendant que vous le pouvez, mais cela ne durera pas, c'est certain. Le docteur J.I. Parker, dans son livre, probablement que vous avez lu, « Connaître Dieu », prévient les jeunes chrétiens, si vous voulez. Il écrit « Ce qui se passe en réalité, c'est que le Dieu dont il est dit dans Isaïe 40, 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras », se montre plein d'attention envers les tout jeunes chrétiens, comme une mère envers son tout jeune enfant. Aussi, le début de la vie chrétienne est-il souvent vécu dans une joie profonde, ponctuée d'interventions divines étonnantes, de réponses extraordinaires à la prière, enrichie des fruits que donnent immédiatement les premiers essais de témoignage. Et je me rappelle d'avoir vécu quelque chose comme ça au début de ma vie chrétienne. C'est ainsi que Dieu encourage ses jeunes enfants et les établit dans la vie. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent et deviennent plus résistants, il les met à plus rude école et leur fait affronter des circonstances hostiles et démoralisantes, dans la limite de ce qu'ils peuvent supporter, mais pas au-delà. Comme il nous est mentionné dans 1 Corinthiens 10, 13, où on nous parle de qu'on n'est pas tenté au-delà de nos forces, mais pas en deçà de ce qui nous est dit dans l'exhortation de Actes 14, 22, et nous, concernant le fait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que Dieu forme notre caractère, affermit notre foi et nous prépare au service des autres. Fin de la citation de M. Parker. Et nous voyons ce pattern, n'est-ce pas, ici, même dans le livre de Josué. Vous rappelez-vous comment il commence? Eh bien, dès le tout début, nous sommes témoins de la providence frappante, les réponses remarquables aux prières dans Josué 1, 6, la traversée du Jourdain, la destruction de cette grande cité de Jéricho. Ainsi, dès le tout début, Dieu encourage son peuple, les fortifiant, faisant en sorte que la vie leur soit aisée. Mais lorsque nous avançons, en particulier au milieu du chapitre 7, les choses se corsent. Dieu les expose à des influences décourageantes. Ils ont souffert de cette défaite à Haï. Ils ont découvert qu'il y avait quelqu'un dans leur propre camp qui les a trahis et a péché gravement, et leurs vies sont devenues plus difficiles ou compliquées. Lorsque nous poursuivons au chapitre 9, nous avons une autre dose de réalité. Ils sont entrés en alliance avec les Gabaonites, mais c'était une chose insensée. Ils ont failli en ne consultant pas l'Éternel, et encore ils se sont retrouvés en situation fâcheuse. Mais maintenant, ils réalisent que la vie n'est pas si facile, et dans ce processus éducatif, Dieu forme les caractères et fortifie leur foi. Cependant, clairement, Dieu les sort de leur environnement de cocon, dans leur cocon, soyeux, et leur fait sentir les formes, les fissures et les clous des épreuves et des difficultés. Et il fait souvent cela, n'est-ce pas? Et lorsque nous tournons dans Josué 10, où nous sommes présentement, ici encore, ils font face à une autre situation plutôt incongrue. Des décisions difficiles devront être prises. Sont-ils prêts? Ont-ils maturé? Est-ce que leur foi est plus forte? Eh bien, nous allons vite le découvrir. On va construire notre processus ce matin autour de trois actions majeures ou trois cris à l'aide. Le premier, il y a le cri du roi cananéen de Jérusalem au verset 4. Il y a le cri des Gabaonites au verset 6 et il y a le cri d'un Israélite, Josué, au verset 12. Donc, nous avons notre matériel, le cri de guerre des Cananéens, le cri humble des Gabaonites et le cri de foi d'un Israélite. Ce sont les trois cris qu'on va considérer ce matin. Premièrement, écoutons le cri de guerre des Cananéens au verset 4. Josué 10 est un autre chapitre rempli de tensions et de conflits. La première personne que nous rencontrons ici dans ce chapitre est un roi et il n'est pas très souriant. Il est en trouble et il est en colère. Son nom est Adoni-Tzedek. Et vous pouvez apprécier sa consternation. Ce matin-là, vous pouviez lire dans l'entête de la presse du matin, les Gabaonites ont conclu une alliance avec les Israélites. La stratégie de Josué est très claire maintenant. À tout le moins, cela semblait très clair pour les Cananéens, à savoir ce que Josué tentait de faire. L'armée d'Israël a maintenant fait une brèche à travers Canaan. Jéricho était le numéro 1, la première brèche, Haï de numéro 2. Ces deux cités étaient détruites. Et maintenant, les Gabaonites ont déserté le navire. Gabaon consistait en 4 cités dont nous avions parlé au chapitre 9. Mais ici, ce qui est aussi très déconcertant pour le roi de Jérusalem, le Gabaon n'était pas un combattant poids-plume. Ce n'était pas une petite nation à travers la nation cananéenne. Ce n'était pas un poids léger, mais un poids lourd. Et remarquons comment Gabaon est décrit ici. Il y a 4 clauses qui décrit ici la force de Gabaon. Au verset 2, il nous est dit « Gabaon était une grande ville importante ». Et c'est la même phrase qui est utilisée ici pour décrire Ninive dans Jonas. Le verset 2 nous dit que Gabaon était une ville royale, donc qui était sous la gouverne d'un roi, c'est-à-dire qu'elle était établie politiquement, militairement. Verset 2 aussi nous est dit qu'elle était elle était plus grande que la ville de Haï, donc plus armée, plus d'arsenal. Verset 2 nous dit que tous les hommes étaient vaillants, ce qui veut dire qu'ils étaient bien entraînés, bien préparés pour la guerre. Donc, si quelqu'un devait s'en prendre aux Israélites, c'était les Gabaonites. Ils pourraient combattre efficacement. Mais maintenant, voyons ce qui est arrivé. Les Gabaonites sont devenus des traîtres, à tout le moins dans la perspective des Cananéens. Il faut mentionner ici que Canaan, c'était le peuple Canaan dans toute Canaan, qui comprenait le pays promis, la terre promise. Et si vous avez regardé, je vous l'ai imprimé ce matin, je l'ai pas dans ma Bible, mais on le voit bien dans la Bible de John MacArthur. À un moment donné, tu vois tout où ce qui est Israël, toute la Palestine et toute la terre de Canaan, ça semble un grand, comment on pourrait dire, une grande barre. Et on voit vraiment tout le chemin de Josué, mais j'ai oublié. Maintenant, cela met... OK, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Canaan, mais à travers Canaan, tu as toutes sortes de petits peuples. Tu as les Gabaonites, les Amalécites, en tout cas, il y en a une panoplie, là, il y en a beaucoup. Maintenant, cela met tout Canaan dans une situation très précaire. Ils sont beaucoup plus vulnérables à être attaqués. Et sur la carte de Canaan, que je devais apporter puis que j'ai pas apporté, Josué se déplace en ligne droite d'est en ouest. Alors Canaan est fait le long de même, Josué se déplace de cette façon-là. Mais en défaisant Jéricho et Haï, et maintenant, avec ses quatre cités et les Gabaonites qui font la paix avec lui par le traité qu'ils ont fait, il a coupé le pays en deux. Donc, le pays est coupé en deux parce que tu as Jéricho et tu as Haï, et tu as, avec le traité qu'ils ont fait, ça coupe un peu, ça coupe le pays est comme en deux. Il peut maintenant conduire une campagne militaire. Donc, le pays étant coupé en deux, il peut aller soit au nord, soit au sud. Ce qui fait maintenant qu'il est dans les parages, dans l'environnement immédiat de Josué et de la nation d'Israël. Le roi de Jérusalem réalise probablement qu'il est le suivant sur la liste de frappe de Josué. Il est le prochain sur la liste à se faire attaquer. Ainsi, vous pouvez bien comprendre pourquoi il sent la soupe chaude. Il a peur. Toute la cité ici expérimente quelque chose comme une attaque de panique. Et on le voit au verset 2, il nous est dit qu'il eut alors une forte crainte. La peur manifeste généralement ou expose ce en quoi nous faisons confiance et où est notre confiance. Dans le psaume 27, nous pouvons lire, il nous est dit « Lorsque je suis dans la crainte, je mets ma confiance en l'Éternel ». Lorsqu'un chrétien est dans la crainte, où est-ce qu'il court? Eh bien, s'il court où il doit courir, il devrait courir, il court vers Dieu. Cela devrait être l'action, le réflexe de notre âme lorsque nous sommes dans la crainte, dans la peur. Mais lorsque le monde non régénéré est dans la crainte, où est-ce qu'il court? Eh bien, il court vers eux-mêmes. Ils mettent leur confiance en eux-mêmes. Ils cherchent refuge en eux-mêmes. Et c'est clair que c'est ce que le roi de Jérusalem fait ici. Il met sa confiance dans la force humaine, dans l'homme. Le verset 3 nous dit qu'il rassemble quatre hommes comme lui, quatre autres rois. Ainsi, il compte sur l'arme de la chair. Le verset 4 nous laisse entendre le premier cri pour l'aide. Et ce cri se manifeste sous la forme de trois verbes. Il dit « montez vers moi, montez ». Le deuxième « aidez-moi » afin que nous frappions. Et il est clair qui il veut que ces quatre rois acolytes attaquent, les Gabaonites. Ces gens qui se sont vendus aux Israélites, nous allons les faire payer. C'est la vengeance, cette impulsion puissante qui règne souvent dans le cœur humain. Tous ces cinq rois amoréens sont prêts et impatients à faire payer les Gabaonites en raison encore de cette alliance de paix qu'ils ont conclue avec Israël. Rappelons-nous maintenant que les Amoréens ont une histoire de brutalité et de cruauté. Ils ont bu les raisins de la colère depuis longtemps. Et le verset 5 nous démontre la coalition. Le roi de Jérusalem et ses copains s'en viennent pour attaquer les Gabaonites. On peut imaginer ici la peur des Gabaonites. Militairement, ils n'ont aucune chance. Mais c'est tout un changement. Pensons à la situation de la perspective des Gabaonites. Quelques jours ou quelques semaines passées, ils ont entendu la nouvelle de Josué qu'ils seraient épargnés, qu'ils vivraient comme nous le voyons dans Josué 9, 20, 26. Mais maintenant, voyons ce qui arrive. Tout ici porte à croire qu'ils vont mourir, qu'ils seront détruits. Le cri de guerre des Cananéens. Ce qui nous amène au deuxième cri, le cri des Gabaonites, le cri humble des Gabaonites. Nous entendons un autre cri, mais il est très différent du premier cri. Le cri du roi de Jérusalem était un cri pour de l'aide, dans le but de détruire les Gabaonites. Un cri pour verser le sang, un cri de vengeance, de destruction. Mais ceci est un cri pour le salut. Notons au verset 6, il nous est dit, « Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. » Les Gabaonites sont quelque peu conscients qu'ils ne peuvent manœuvrer contre ces cinq rois amoréens et leurs armées. C'est un cri humble, mais il y a autre chose. C'est un cri à l'aide, mais c'est aussi un cri qui est direct, qui est personnel. Ils vont directement à Josué. Ils s'adressent à lui, font appel directement à Josué. Mais c'est aussi un cri urgent. « Monte vers nous en hâte. Nous avons besoin d'aide. Et nous avons besoin d'aide maintenant, illico. » Vous avez un aperçu de l'urgence de la situation par la manière dont il s'exprime. Tous les verbes du verset 6 ont la forme de l'impératif. Il leur demande pas simplement. Il leur commande. N'abandonne pas. Monte vers nous. Délivre-nous. Donne-nous du secours. Mais comme on dit en anglais, wait a minute. Attendez un peu. Ce sont les Gabaonites. Vous vous rappelez d'eux. Qui pensent-ils qu'ils sont? Demandant pour de l'aide. Un retour au verset 9, au chapitre 9 du verset 20, et le verset 27, nous rappelle ce que Josué leur a dit en termes de leur fonction pour le reste de leur vie. Ils seront des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau, des esclaves de basse classe. Ils étaient un temps des guerriers redoutables, mais maintenant, regardez-les. Et nous ne pouvons pas oublier qu'ils ont trompé Josué et les hommes d'Israël. Comment Josué pourrait-il oublier leurs mensonges? Et cette alliance, cette ancienne alliance, était basée sur les mensonges. Vous vous êtes joué de moi une fois, mais pas deux fois. Pourrait-il mentir encore? C'est probablement ce qui nous serait venu à l'idée. C'est probablement cette pensée-là qu'on aurait eue. Et si Josué pensait que la plupart des gens penseraient, ce serait probablement ainsi. Bien fait pour vous. Vous avez ce que vous méritez. C'est la rétribution de Dieu. Vous nous avez menti, et la Bible ne dit-elle pas « le chemin des transgresseurs est difficile » Si vous pensez d'une perspective pragmatique, Ce serait une bonne manière pour les Cananéens. Laissons-les à eux-mêmes. Laissons-les se battre entre eux. Ça réglerait le problème pour Josué. Ça, c'est une guerre, entre eux, c'est comme une guerre civile. Elle servirait les plans de Josué. Et ce serait très facile, n'est-ce pas, pour Josué de continuer sa marche dans Canaan sans s'occuper d'eux autres. Ils vont se détruire entre eux autres. Josué aurait pu facilement ignorer cet appel au 911 pour diverses raisons légitimes. Mais Josué nous a déjà démontré qu'il vit par un standard de vie plus élevé. Josué a laissé savoir aux Gabaonites que le Dieu qu'ils adorent est un Dieu de vérité. Le Dieu que les Israélites adorent est un Dieu de vérité. Il est un Dieu qui donne une place primordiale au fait de garder votre parole. Et ils ont promis de préserver la vie des Gabaonites. Et c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Au verset 26 du chapitre 9, ils les ont déjà délivrés en marge de l'Alliance. Nous y lisons, « C'est ainsi qu'il les traita, les arrachant à la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. » Alors le peuple Israël voulait, à cause de ce qu'ils avaient fait du mensonge et du subterfuge qu'ils avaient utilisé pour s'introduire parmi eux, le peuple Israël voulait les détruire. Alors, Josué est intervenu. Mais maintenant, il lui est demandé de les délivrer une deuxième fois. Que fera-t-il? Est-ce que Josué va garder sa parole? C'est ce que Dieu fait. Sera-t-il comme Dieu? Dieu garde ses promesses et Dieu veut que nous tenions nos promesses. Josué sait que les alliances sont très importantes pour Dieu. Il ne serait pas dans la terre promise si Dieu n'avait pas gardé son alliance, ses promesses. Et au cœur de l'alliance, il y a une promesse, un serment de promesse. Donc, les Gabaonites avaient une revendication valide pour la protection d'Israël. Cependant, il se retrouve maintenant en danger imminent. Ainsi, vous pouvez très bien deviner ce que Josué fera. Comprenant Josué, en retournant au verset 7, nous y lisons qu'il a répondu immédiatement. Il est un homme de parole, il est digne de confiance. Il nous est dit, « Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants guerriers. » Si Josué avait eu quelques doutes, quelques craintes, cela aurait pu être une situation mauvaise. Cela aurait pu être éphémère, de courte durée. Mais voyons ce que Dieu fait. Il le rassure de la victoire. Au verset 8, il nous est dit, « L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Maintenant, où avons-nous déjà entendu quelque chose de semblable avant? Eh bien, on doit retourner à Josué 1, chapitre 1, verset 5, où nous entendons « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Dans Josué 6, le verset 2, avant la prise de Jéricho, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. » Et encore dans Josué 8, au verset 1, avant qu'il ne se lance dans l'attaque sur Haï, l'Éternel dit à Josué, « Sois sans crainte, ne t'épouvante pas. Prends avec toi tous les hommes de guerre, les gens de guerre, lève-toi. Montre contre Haï. « Vois, j'ai livré en ta main le roi de Haï et son peuple, sa ville et son pays. » Il le répète et le répète encore. Mais pourquoi Dieu fait-il cela? Est-ce que Josué avait une mauvaise mémoire? Est-ce qu'il avait perdu la mémoire? Est-ce que vous croyez que Josué était quelque peu fatigué d'entendre Dieu dire « Sois sans crainte, sois sans crainte, je suis avec toi, je suis avec toi. » Qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, Dieu rappelle à Josué « J'ai été fidèle avant, j'ai pris soin de toi, Josué, et je vais prendre encore soin de toi. » Il le rassure, le réassure en répétant cette promesse. Par trois fois qu'il répète cette promesse. C'est quelque chose que Josué a entendu avant et un appel à Josué de la situation présente. Oui, tu m'as aidé dans le passé et tu vas m'aider encore. Le commentateur Dale Ralph Davis dit « C'est ce que le peuple de Dieu a habituellement besoin. » Non pas une nouvelle vérité, mais une ancienne vérité fraîchement appliquée à leurs besoins actuels. » Fin de citation. Et ici, Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, assure Josué encore de sa fidélité et de sa miséricorde et de son aide souveraine. Remarquez que cela ne disqualifie pas Josué de se donner de tout son cœur à la tâche devant lui. Il aura beaucoup de travail pénible à faire, beaucoup de sacrifices. Josué n'agit pas dans cette mentalité de laisser aller, laisser Dieu agir et attendre. Certains chrétiens pensent que si vous croyez à la souveraineté divine, cela, quelque part, vous exempte de responsabilité humaine. Eh bien, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pas ce que Josué croyait non plus. Il lui a été promis la victoire. Le Dieu souverain lui a promis. Mais Josué ne s'est pas assis sur son arrière-train en ne faisant rien. Il n'a pas adopté une attitude désinvolte. Au verset 9, il nous est dit « Josué arriva subitement sur eux. Il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. » Et concernant ce trajet entre Gabaon et Gilgal, parmi les commentateurs, il n'y a pas vraiment de consensus concernant la distance entre Gilgal et Gabaon. Certains vont jusqu'à entre 20 et 40 kilomètres. Mais par contre, le seul terrain d'entente qu'ils ont est que c'est à une altitude de quelque 9000 mètres. C'est à 9000 mètres de hauteur. Donc, c'est toute une marche et beaucoup de sueur pour y arriver. Et en plus, ils doivent le faire vite et à travers un terrain montagneux pour arriver aux Gabaonites à temps. Mais tout va en leur faveur. Le verset 9 nous dit que Josué y arriva subitement. Les rois cananéens, les rois amoréens n'étaient pas préparés pour cet assaut. C'était un choc. Certainement que personne ici ce matin, on n'a pas vraiment vécu la guerre dans le sens où on n'est pas allé sur le champ de bataille, mais on peut se rappeler, lorsqu'il y a eu la guerre en Irak, vous rappellerez, je ne me rappelle pas en quelle année, 2002, en tout cas, c'est après les deux tours, là, lorsque le président Bush a envoyé les troupes en Irak. Et je me rappelle, ça a été très, très médiatisé. Il y avait même des caméras dans les endroits de frappe, dans les avions ou les hélicoptères. Je ne sais pas quel arsenal qui a été utilisé. Et c'était très, très médiatisé. Mais tout s'est fait en catimini, dans le sens qu'il n'y a personne qui savait exactement quand l'attaque se déclencherait. Ça a été fait subitement. Un peu dans l'anonymat. C'est sûr que ça s'est révélé par après, mais le temps exact de frappe n'a pas été déterminé. Alors, on pouvait tout voir cela, cette guerre live, si on veut. Je dis cela simplement pour mentionné que l'attaque a été faite de surprise ici dans Josué avec les en allant aider les Gabonites. Ça s'est fait subitement, parce qu'il dit qu'il s'est arrivé subitement, à l'improviste comme. Quant à la bataille même, le verset 10 résume la victoire. L'Éternel les mit en route, en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makkeda. Ensuite, nous avons quelque chose qui a pris place et qui est plutôt étonnant, qui est plutôt extraordinaire, incroyable, stupéfiant. Vous n'avez jamais vu une guerre comme celle-là. De grosses pierres tombées du ciel qui se sont avérées mortelles. Il nous est dit qu'il y a eu plus d'Amoréens tués par ces pierres tombées du ciel que par l'épée des hommes de Josué. Quelque chose d'autre y est arrivé qui fait en sorte que vous devez retenir votre souffle. Ce qui nous amène au troisième cri. Le cri d'un Israélite, le cri de Josué, le cri de foi de Josué au verset 12. Nous y disons, « Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon. » Soyez sans crainte, je ne ferai pas une thèse de physique et de je ne sais pas comment c'est quoi le terme là, pour expliquer tout cela. Je n'ai pas la compétence. Encore ici, il y a beaucoup d'encre versée par les commentateurs sur cet événement particulier. Mettant de côté ceux-ci, sans aucun doute, nous avons ici des événements surnaturels. Et nous ne voulons certainement pas en débattre. Ce sont des miracles. Cependant, nous pouvons faire remarquer ceci. Lorsque la question de miracle se présente, les gens souvent sont distraits et perdent de vue la chose principale, le point principal. C'est un peu comme qu'on vit à chaque année avec le temps de Noël. C'est certain qu'on n'a pas à croire au Père Noël et à toutes ses manigances, mais vous êtes certainement promené dans des grands magasins, des magasins à grande surface, dans des départements des jouets, et vous voyez les enfants se promener. Ils sont émerveillés dans toute cette panoplie de Star Wars, de jeux de toutes sortes, et il y en a à profusion. Et l'attraction principale est mise sur le Père Noël, le bonhomme qui est habillé en rouge. Il y a beaucoup de jouets dans ces magasins et les jeunes sont pratiquement hypnotisés par tout cela. Eh bien, nous pouvons penser que les gens qui marchent dans Josué 10 et s'en vont parlent plus concernant les pierres tombées du ciel, plus concernant le fait que le soleil se tint immobile. C'est une question qui est discutée à savoir si c'est un miracle de motion ou un miracle de radiance. En d'autres mots, est-ce que le soleil s'est actuellement, littéralement, tenu immobile ou était-ce simplement un blackout? Il y a beaucoup de théories, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît la réponse véritablement. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue, le point est que vous pouvez être captivé par ces phénomènes surnaturels. On peut être hypnotisé par toute cette démonstration-là et rater la chose principale. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose principale ici qui nous est dite? Eh bien, c'est très simple. Si vous lisez la façon dont cela devrait être lu, vous avez quatre mots d'action au verset 10. Il nous est dit, l'Éternel les mit en déroute, les poursuivit sur le chemin, les battit. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Donc, il y a quatre verbes d'action, les mit en déroute, les poursuivit, les battit et les fit tomber. Et il est évident que le comportement inhabituel du soleil, que ce soit qu'il s'est arrêté, que ce soit un miracle de motion, un miracle d'arrêt de radiance, nous ne sommes pas certains de ni un ni de l'autre. Cependant, ce que nous sommes certains, c'est que Dieu l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est tout comme si Josué et ses guerriers se tiennent sur la voie de service. Vous avez peut-être déjà regardé une partie de football. Des joueurs du football sont sur le terrain. Et sur le côté, vous avez les meneuses de claques, vous avez tous les entraîneurs de toutes les sortes. Ils sont sur les lignes de côté, c'est un peu comme sur la voie de service. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas dans l'action. Mais ils voient tout ce qui se passe dans l'action. Et on voit tous ces spectateurs, ces 70 000, 80 quelques mille spectateurs qui sont là. C'est certain que tous ces gens-là sont quelque peu impliqués. Mais ce n'est pas eux autres qui sont dans le combat. Et la comparaison, c'est tout comme si Dieu combattait cette guerre par lui-même. C'est sa victoire à lui. C'est pas les spectateurs, c'est pas les entraîneurs. C'est la victoire de Dieu. C'est Dieu qui combat. Et est-ce que cela n'est pas prouvé, justifié par le verset 14? Il nous est dit, « Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. » C'est la chose principale. C'est la grande vérité ici, c'est la grande leçon. Dieu a combattu pour Israël. Et vous pouvez transposer cela dans votre propre vie, dans votre propre sphère d'activité, à la maison, à l'école, au travail. Dieu est de notre côté. Il n'est pas comme un meneur de claques ou une meneuse de claques. Il combat. Ce Dieu n'est pas cette sorte de Dieu spectateur. Il est activement impliqué dans nos vies ou dans notre combat ou dans notre guerre que nous avons avec nos ennemis. C'est la leçon principale ici, ne perdons pas de vue cela. C'est l'attraction principale de Josué 10. Dieu combat pour nous. Et quelquefois, sans nous. Il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Mais nous n'aurions pas de réussite si cela n'était pas le cas. Nous perdrions toutes les batailles. Il n'y aurait pas de Jéricho, pas d'Aï, pas de victoire à Gabaon, à moins que Dieu ne combatte pour nous. C'est quelque chose qui devrait nous réconforter. Dieu combat notre ennemi et Dieu vaincra notre ennemi. Il l'a d'ailleurs déjà vaincu. Est-ce que cela cadre avec votre concept de Dieu? Lorsque vous pensez à Dieu, quelle image vous vient à l'esprit? Est-ce que cette image vous vient à l'esprit? Un guerrier, un soldat. N'est-ce pas cela que nous avons vu dans Josué 6, lorsqu'il nous a mentionné la figure de l'incarnation de Jésus où Christ était un soldat avec une épée dans les mains? C'est cette image que nous avions dans Josué 6 et c'est cette image que nous avons ici aussi. Le soldat Dieu, le soldat, le guerrier combattant pour nous. Une citation de Dale Ralph Davis qui mentionne, je vais la lire d'abord en anglais, puis ensuite je vais vous la... It is too bad much of the church. It is too bad much of the church has lost this vision of God or Christ as the warrior who fight for his people. Too many of us regard this conception as substandard, by which we mean it does not fit our sentimental 20th century graven images of what God ought to be like. The imagery seems too violent, and we do the same for the Lord Jesus, with perhaps not a little help from church school material. The popular image of Jesus is that he is not only kind and tender, but also soft and prissy, as though Jesus come to us reeking of hand cream. Such a Jesus can hardly steal the soul that is daily assaulted by the enemy. Avec une traduction libre, c'est dommage que la plupart des églises aujourd'hui ont perdu cette vision de Dieu ou de Christ en tant que guerrier qui combat pour son peuple. Trop d'entre nous voient cette conception comme inférieure, par laquelle nous voulons dire qu'elle ne cadre pas dans notre image taillée du 21e siècle de ce que Dieu doit être. L'image semble trop violente. Et nous faisons la même chose avec le Seigneur Jésus. L'image populaire de Jésus est qu'il n'est pas seulement bon, sensible, tendre, mais aussi doux et efféminé, comme si Jésus venait à nous empesté de crème à main. Mais un tel Jésus ne peut guère voler les âmes qui sont attaquées journellement par l'ennemi. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Psaume 24, 8 nous dit « Qui est le roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. » Et si vous voulez des preuves, tournez dans Apocalypse 19, versets 11 à 16. Nous avons toute une vue du vrai Jésus, c'est à couper le souffle pour ne pas dire. Et voyons ce que l'apôtre Jean nous dit alors qu'il a une vision de Jésus-Christ. Apocalypse 19, versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Cela ne regarde pas comme très doux, n'est-ce pas? C'est le Jésus que nous adorons. Et c'est le seul Jésus qui peut vaincre notre ennemi. Vous avez besoin d'un Jésus comme cela, un Jésus qui combat, un Jésus qui a une épée, qui n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin désespérément de lui. Nous avons besoin d'un Jésus de cette trempe. Nous avons besoin d'un sauveur qui peut tenir le soleil immobile. Nous avons besoin d'un sauveur qui peut fermer la gueule du lion. Nous avons besoin d'un sauveur qui peut m'aider à vaincre mes péchés rémanents. Nous avons besoin d'un sauveur qui est souverain et qui nous délivre du mal. Quel réconfort de savoir que c'est le Jésus de la Bible. Ce n'est pas étonnant de Paul de dire « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? » Notre ennemi n'a aucune chance parce que Jésus combat pour nous. Vous allez vous en retourner sur le champ de bataille. Vous pourriez même retourner à la maison et dès que vous entrez, il y aura des tensions, des conflits. Vous pourriez être la cible de diverses averses, de boulets, de tentations. L'ennemi prend différentes formes. Il peut prendre la forme d'un mari non converti, d'une épouse qui vous diminue et derrière cet ennemi, il y a le diable. Et le diable veut être provocant, colérique, plein d'amertume et veut encore plus asservir votre épouse ou le mari inconverti, créer un plus grand fossé entre vous. Et peut y avoir de la tension avec les enfants lorsque vous en appelez des Écritures. Il y a de la résistance dans leur visage, vous êtes en guerre. Comment gagner cette guerre? Eh bien, vous devez crier à Dieu pour obtenir la force. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut combattre cette sorte de guerre. Vous devez combattre. Josué avait à combattre. Éphésiens 6, les versets 15 à 16, dit que Dieu nous a donné l'épée de l'Évangile, un bouclier de la foi, un casque du salut. Mais ultimement, frères et sœurs, la victoire est la sienne. Nous avons la victoire parce que Jésus a remporté la victoire, parce que Jésus est un roi guerrier. Nous avons l'espérance qu'à chaque fois que nous sautons sur le champ de bataille, nous pouvons vaincre et nous pouvons gagner. Mon ami, est-ce que tu connais ce Jésus? Sans ce Jésus, il n'y a pas d'espérance de victoire. Sans ce Jésus, vous vivez une vie de défaite. Le péché est votre maître. Le diable vous leurre, vous trompe. Le monde vous séduit. Sans ce Jésus, vous ne pouvez pas dire non au péché. Vous ne pouvez pas résister au diable. Le monde va vous mouler comme de la glaise. Vous avez besoin de ce Jésus. Vous devez crier à lui, tout comme les Gabaonites ont crié à Josué. Un cri humble, n'est-ce pas? C'était un cri personnel direct à Josué. Vous devez crier à Josué, « Viens et secours-moi. » Seul Jésus peut vous sauver de votre ennemi, l'ennemi du péché, l'ennemi du diable et même l'ennemi de la mort. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, et nous te prions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse faire partie intégrante de notre vie, Seigneur, qu'elle puisse transformer notre vie. Qu'elle puisse, Seigneur, nous diriger vers Jésus, l'auteur de notre foi. Que nous puissions être campés, Seigneur, sur cette foi, Seigneur, que seul Jésus nous donne. Notre Dieu, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, d'aller même au-delà de ce qui a été dit ce matin, Seigneur, et que tout se fasse pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.